l'évangile de Jean est au chapitre 12, John chapter 12, l'évangile de Jean chapitre 12 et verset 20 à 22, John 12, 20 to 22, Jean 12, verset 20 à 22. On a ici juste casé au milieu de tout ce que se passe à cette époque-là. On a juste un petit quelque chose qui se passe et c'est cela où nous voulons nous arrêter. Il y a ces Grecs qui voudraient voir Jésus. Hein, donc cette parole de ces Grecs, nous voudrions voir Jésus. C'est le thème de notre méditation ce matin. Donc Jean chapitre 12, et je commence à lire au verset 20. Il dit « Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Voilà. Donc, juste un petit détail, là, quand ces Grecs s'adressent à Philippe, ils disent « Seigneur », mais c'est comme dire « Monsieur hein, », c'était, ou comme vous avez, pour ceux qui ont fait de l'allemand, hein, vous avez « R », c'est « Monsieur hein, », donc c'est pas qu'ils le traitent de Dieu ou quelque chose comme ça, c'était comme ça qu'on le disait, hein, comme « Monsieur », ça vient de « Monseigneur », donc voilà. Donc, ce n'est pas plus que cela. Ce désir de ces Grecs qui sont montés à Jérusalem, et il nous dit qu'ils sont montés à Jérusalem, pas en touristes, ils ne sont pas montés à Jérusalem pour visiter cette ville si bien connue, avec une longue histoire, mais il nous dit qu'ils sont montés avec ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Donc, ils avaient certainement été exposés un petit peu, ils avaient entendu parler du Dieu qui se trouve à Jérusalem, le Dieu que les Juifs adorent, les Juifs de partout dans le monde montent à cette époque-là, hein, pour la Pâque, pour adorer. Et donc, eux se joignent à eux. Et puis après, on n'en sait pas plus. C'est le seul endroit où c'est mentionné. On ne sait pas qui ils sont et ce qu'ils deviennent, ni rien du tout. On n'en sait pas plus. Mais ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit a quand même trouvé utile de mettre ceci ici. Donc, et c'est pour ça que nous allons nous intéresser. Vous savez, il y a d'autres qui sont venus comme ça. Vous vous souvenez, à l'époque de la naissance de Jésus, il y a eu les mages d'Orient qui sont apparus, on ne sait d'où, et puis qui viennent, qui veulent adorer le roi des Juifs qui vient de naître, ils le voient, ils l'adorent, ils s'en vont, et puis on n'en sait pas plus. Hein, c'est quelque chose qu'on voit, et c'est mentionné par Matthieu, ici c'est mentionné uniquement par Jean, mais le Saint-Esprit a trouvé utile que ce soit mentionné, et donc il y a certainement une raison, et nous voulons étudier cela. Le récit il ne s'impose pas, mais bon, nous allons voir qu'il y a quand même des bonnes raisons pourquoi il est là et ce que nous pouvons en tirer. D'abord, première chose, c'est que ce sont des Grecs qui veulent voir Jésus, hein, donc déjà ceci vient de se passer après l'entrée, vous le voyez là dans les versets précédents, les versets 12, hein, mais ça se passe réellement chronologiquement après donc le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus. Jésus est arrivé, il y avait tout ce monde qui arrive, on a reconnu Jésus, on avait entendu parler que c'est de ce Jésus de Nazareth qui faisait des miracles partout, et Jésus était entré. Et certainement, tout le monde l'a entendu aussi, parce que Jésus est entré dans la ville, et pas seulement dans la ville, mais dans le temple, et puis il est arrivé à la première cour. qui se trouve dans le temple, il y avait trois cours. Il y avait la cour des païens, il y avait la cour des femmes, et puis il y avait la cour des hommes juifs. Des femmes juives, et puis après des hommes juifs. Hein. Donc ben après, la première cour, c'était la cour des païens. Et Jésus étant arrivé là, eh bien, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait chassé tous les vendeurs qui occupaient cette cour. Donc, cette cour qui était le lieu où les païens pouvaient venir et adorer Dieu, normalement, eh bien, on avait pris leur place. Et dans, là, il y avait ceux qui trafiquaient dans la vente des animaux pour les sacrifices. D'autres s'occupaient à faire le change des différentes monnaies du monde pour le changer en monnaie du temple. Et puis aussi, en Marc, chapitre 11, en passant, il nous dit aussi qu'il y avait des gens qui prenaient le raccourci. Et ils passaient par là, comme ça, c'était au lieu de faire le tour du temple, ben, ils traversaient par là. Et Jésus, il a mis un holà sur tout cela. Hein. Non, ce n'est pas un lieu de trafic, ce n'est pas un lieu pour les trafiquants de change, et ce n'est pas un raccourci, c'est un lieu d'adoration. Et Jésus réagit fortement là. Comment est-ce que les non-juifs devaient adorer Dieu si la seule partie à laquelle ils avaient accès était occupée, était transformée en foire, hein? Et Jésus était indigné à cette vue et il rappelle aux juifs qui sont amassés depuis toutes les colonies romaines et puis de toutes les régions. Et ils venaient depuis le nord de l'Égypte, Alexandrie, il y avait une colonie juive là, ils arrivent de Rome, ils arrivent de la Perse, ils étaient de partout. Et ils arrivent pour cette occasion-là. Et Jésus leur rappelle, il dit, mais cette maison n'a pas été construite pour ça. Et c'est là où il va leur rappeler pourquoi. C'est là. Et je vous invite à regarder dans 1 Roi chapitre 8 dans l'Ancien Testament. Donc vous vous souvenez peut-être que Salomon, le fils de David, du roi David, eh bien il avait construit un temple, un glorieux temple. Et quand il avait fini, eh bien, il a fait la dédicace. Et lors de la dédicace, eh bien il a fait une longue prière par rapport à ce temple. Donc 1 Roi chapitre 8, et je ne vais pas lire tout le chapitre, hein, toute sa prière, vous pourrez la lire, c'est très bien, c'est intéressant de voir, mais je vais prendre seulement la partie qui intéresse les étrangers, parce qu'il y a pensé aussi, et donc au verset 41 jusqu'au verset 43. Donc c'est dans la prière de dédicace, où Salomon dit des choses, par exemple, si jamais le peuple d'Israël est dispersé au loin, et puis qu'ils se repentent et qu'ils te cherchent, eh bien tu les ramèneras, tu les pardonneras, s'ils te prient parce qu'ils souffrent de la famine, tu répondras. Et alors au verset 41, il ajoute, hein, et c'est Salomon qui dit, et quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom. Car on saura que ton nom est grand, ta main forte, ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Donc, c'était tout à fait dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu, que le temple, c'était que les étrangers, les non-juifs, puissent venir, hein, s'ils entendaient parler de Dieu, qu'ils puissent venir et qu'ils puissent adorer Dieu. Et il a dit, et si ils te demandent quoi que ce soit, tu leur accorderas. Pour qu'ils sachent qu'ils associent ce lieu avec le Dieu qui répond à la prière. Et donc, cela donnera cette réputation à Dieu d'être un Dieu qui répond et qui est réel. Donc, c'est l'intention de Dieu que le temple soit un lieu où même les non-juifs puissent venir. Hein. C'est pas... c'est le problème est venu du peuple qui a voulu tout garder pour eux, mais de la part de Dieu, il n'a pas fait de distinction, plutôt qu'il a choisi un peuple qui devait porter ce message au reste du monde. Donc Jésus, en arrivant dans ce temple, il voit que le lieu où les étrangers pouvaient se réunir, s'assembler pour adorer Dieu, eh bien, il voit qu'on a occupé le terrain par autre chose. Dans un sens, on leur a dit, écoutez, il n'y a pas de place pour vous. Hein, voilà. Alors, là, c'est le principe. Jésus lui-même, lui, il citera ce passage d'Ésaïe, hein, Ésaïe chapitre 56 et au verset 7, où il dira, « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est ça que Ésaïe dit. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Ésaïe 56, 7 et la deuxième partie. Et donc c'était et Jésus et donc Jésus là il n'est pas venu là pour mettre de l'ordre, c'est pas dans le sens qu'il est venu pour dire bon moi je combat le trafic, je combat la tricherie, je combat les profiteurs et tout ça, sinon il aurait été occupé, il n'était pas obligé d'être à Jérusalem, il y en avait qui se passaient partout, c'était pas son plus grand problème, hein, Dieu était pas Jésus n'est pas venu pour être celui qui met de l'ordre dans la vie sociale et la vie économique du pays. Mais il était venu, et il avait une juste jalousie, c'est que le temple, que les non-juifs puissent adorer Dieu. Et c'était ça sa plus grande préoccupation. Et souvent on le dit, mais il s'est mis en colère. Oui, mais c'est en colère, pourquoi? Pas forcément parce qu'il y avait du trafic, il avait trouvé du trafic ailleurs, mais c'était surtout parce qu'on privait l'étranger de pouvoir adorer Dieu. Et ça, ça le révoltait. Et Jésus avait fortement réagi de ce qu'on privait l'étranger de la possibilité d'adorer Dieu. Et qu'on avait pris le lieu qu'il était réservé pour en faire un marché de bestiaux, un lieu de change et un raccourci. Et vous savez, ça me fait penser à cette parabole du Seigneur. Vous vous souvenez, la parabole du Seigneur où il parlait des terrains. C'est la parole du. Il a dit un semeur semait la semence et puis l'a semée sur un chemin. Puis les oiseaux sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont mangé, ça n'a rien donné. Puis après, il y avait un terrain rocailleux, il y avait un terrain occupé par les épines, et puis il y avait une bonne terre. Mais ici, ce lieu était devenu un marché, un lieu de passage. Comment voulait-on que des étrangers puissent connaître Dieu? On l'avait rendu impossible. C'était comme semer sur un chemin, un lieu de passage, un lieu de trafic, un lieu de tout ça. Et bien, même si la semence est bonne, ça ne prend pas. Et ces étrangers, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous savez, il y avait un autre, hein, c'était l'Éthiopien, hein, qui était venu à Jérusalem et qui avait cherché, et puis qui repartait, qui n'en savait pas plus. Tout ce qu'il avait, c'est avec lui, c'était un rouleau du livre d'Ésaïe. Mais il était venu à Jérusalem et puis il n'avait rien trouvé. Il n'avait pas trouvé les réponses. Et donc, c'est là que Jésus réagit. Hein, et je crois que c'est important pour nous de nous rendre compte aussi. Et là, le frère Georges, tout à l'heure, dans son témoignage, il disait, oui, j'allais à l'église, j'entendais parler de Christ sur la croix, j'entendais parler de Christ ressuscité, j'entendais parler de ceci et cela. Mais on ne m'a jamais dit qu'il était mort pour mes péchés. Il y a du monde qui vient, il y a des vérités qui sont là, mais on l'a présenté de manière à ce que personne puisse les recevoir, puisse pas saisir la chose. Et je crois que c'est notre lourde responsabilité. C'est que c'est pas seulement d'avoir un culte où on se trouve bien, puis on se fait la bise et tout ça, mais que ce soit un lieu où les gens puissent entendre le message, où la semence puisse être semée et les gens saisissent cette semence et que leur vie soit transformée. Sinon, là, nous pouvons nous attendre à une réaction du Seigneur comme celle qu'il a eue dans le temple. Il dit, mais vous faites vos programmes, vous faites vos cérémonies, vous faites vos célébrations, tout ça, mais les gens qui viennent, ben, ils ne comprennent rien, ils ne savent pas pourquoi vous le faites. Hein? Et c'est très important, et donc je veux associer de manière particulière cette réaction violente de Jésus, Mais non pas dans le fait, dans le sens qu'il ne pouvait pas se maîtriser ou il se mettait en colère, mais c'est dans le sens que pour lui, c'était le fait de priver quelqu'un d'entendre le message, de faire de manière à ce que la personne ne puisse pas entendre le message, pour lui, ça se le mettait en colère. Hein? Je me demande combien de fois nous nous sommes mis en colère pour cela. Et alors, Jésus va dans le temple, et ce qu'il a fait quand il a chassé tout ça, c'est sûr que, hein, bon, même si ce n'était pas arabe, là, le téléphone arabe, il marchait bien, hein, c'est sûr que tout Jérusalem a su ce que Jésus a fait. Ça, t'as entendu ce que Jésus a fait? Oui, mais est-ce qu'ils ont entendu que Jésus voulait que l'étranger, celui qui était pas de nation Israël, entende le message? Mais Jésus a, dans un sens, lui, il a lancé un nouveau message. Les étrangers sont bienvenus dans le temple de Dieu. C'est ça qu'il a voulu dire. Et vous savez, à peine s'il a fait ça, la même semaine, là, on se situe, on est à peu près le mercredi de la semaine sainte. Hein, on est à peu près là, c'est juste avant la chambre haute. C'est après, bien sûr, après avoir chassé les vendeurs du temple. Et puis après, c'est après, il y a pas mal de discussions où les Juifs lui ont posé toutes sortes de questions, pièges. Hein, est-ce qu'il faut payer les impôts à César? Et il a dit, bah, écoutez, donnez à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Hein. Donc ça, c'était passé mardi. Et là, le message est arrivé. Et à peine si il a mis de l'ordre dans le temple un petit peu, et que voilà des Grecs qui arrivent et qui disent, nous, eh bien, nous, on veut voir ce Jésus-là. Nous voulons voir Jésus. On nous a dit que c'est Jésus qui a mis de l'ordre là-dedans, qui a dégagé l'espace là pour que l'étranger puisse venir. Eh bien, c'est lui que nous voulons entendre. C'est lui que nous voulons voir. Et vous savez, on trouve souvent, et on l'a vécu, hein, nous avons nos connaissances, nos amis qui sont très vite, très rapidement, ben, ils nous mettent dans la catégorie, nous mettent dans la catégorie d'une secte, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas la Bible, ni ce qu'on enseigne. Mais vous savez, c'est le Seigneur voudrait que nous, on reçoive ce qu'il cherche. Jésus recevra. Ces Grecs vont venir et Jésus va les recevoir. Il a tout fait, c'est à lui, c'est de préparer. Et c'est à nous d'avoir toujours ce bienvenu-là, cette disposition, pour que les gens qui ne connaissent pas, les gens qui n'ont jamais entendu, puissent se présenter. Et nous, on va leur faciliter la tâche d'entendre. On va les encourager à entendre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous allez dans un endroit complètement nouveau et vous ne savez pas, le lieu est nouveau, c'est la première fois que vous allez là et vous ne savez pas trop. Hein, et puis, il n'y a personne qui s'occupe de vous. Vous êtes tout seul et puis c'est à vous d'essayer de découvrir, vous êtes là. Vous savez, c'est très désagréable. Dans tous les cas, pour moi. Hein, il n'y a personne, vous avez demandé quelqu'un, dit, oh, je ne sais pas, personne ne veut vous aider, personne n'est là. Vous avez été touriste quelque part et puis vous voulez voir quelque chose, mais il n'y a personne qui vous aide. C'est très difficile. Et on a presque envie de ne plus revenir. Mais vous savez, ça arrive souvent dans les églises, c'est ça qui est grave. C'est que les gens, ils arrivent et puis ils sont là, puis on les laisse, ils se débrouillent, ils ne savent pas ce qu'on prend, dans quoi on chante, où on s'assoit, ils n'ont aucune idée, il n'y a personne qui s'occupe d'eux. Tout le monde continue à regarder à ce qu'ils font. Et alors, ces gens, ils disent, ouais, bon, moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être un cheveu sur la soupe, hein, je l'ai dérangé peut-être. Et on ne veut pas cette attitude. Hein. Quand on voit quelqu'un venir, eh bien, on veut le recevoir. Là, je sors un peu du sujet, là, mais bon, ça me donne l'occasion de parler de Saint-Denis. J'aime toujours parler de Saint-Denis. Mais souvent, j'ai demandé aux gens qu'ils étaient venus la première fois. Bon, certains viennent en touriste, certains viennent pas parce que quelqu'un les a invités. La première fois, ils rentrent. Mais j'ai souvent demandé, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes revenus la deuxième fois? La première fois, c'était pour faire plaisir à quelqu'un. Mais la deuxième fois, pourquoi est-ce que vous êtes revenus? J'ai demandé à pas mal de gens qui sont par la suite devenus assez fidèles. Vous savez, première chose, ils m'ont jamais dit que c'est parce que tes prédications sont tellement belles. Ils m'ont jamais dit ça. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit parce que j'étais bien reçu. La première impression, c'était d'être bien reçu. Et puis surtout quand ils sont revenus la deuxième fois, et puis on se souvenait de leur nom, on se souvenait qu'ils étaient passés, on s'est intéressé à eux. Vous savez, ça touche. Il n'y a rien de plus personnel que d'être reconnu. Et c'est ça, c'est ça. Et là, eh bien, là, ces Grecs, la première chose qu'ils ont compris, c'est que Jésus, lui, nous recevrait. Peut-être qu'ils avaient essayé d'entrer dans le temple, et puis on les a vus qu'ils étaient grecs, de par leurs habits, tout ça, puis ils ne parlaient pas l'hébreu ou l'araméen. Et donc, on est là, et puis ils ne savaient pas quoi faire, et puis ils étaient repartis. Mais là, ils ont entendu que Jésus, lui, il reçoit bien. Ben, ils sont revenus. Gloire à Dieu! Et c'est ce que nous voulons aussi, nous devons le pratiquer. C'est facile de dire du mal sur les Juifs, mais et nous, est-ce que nous faisons? Et comment nous recevons ceux qui viennent pour la première fois? Deuxièmement, un petit détail, vous savez, ces Grecs sont venus, et donc dans leur cœur, ils cherchent à connaître Jésus, ils veulent connaître Jésus, mais à qui est-ce qu'ils s'adressent? Bien, ils s'adressent à Philippe. Qu'est-ce que vous savez sur Philippe, le disciple Philippe? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, vous allez chercher dans votre tête, vous avez fait plusieurs tours pour trouver grand-chose. Parce que Philippe, ce n'est pas le plus connu. Bon, on sait son nom, mais qu'est-ce qu'on sait sur Philippe? En tant que disciple, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait un miracle? Il a parlé? Il n'a rien. Non, non, pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés? Ils sont allés parler à Philippe. Eh bien, vous savez, en plus, il nous dit qu'ils sont venus et avec instance, ils dirent avec instance, Seigneur, Monsieur Philippe, nous voudrions voir Jésus. Mais ils sont venus voir Philippe. Ils auraient pu voir les disciples comme ça, vous savez, quand on regarde dans un groupe, on arrive à vite à voir qui sont les personnes clés. Et tout ça, quand on surveille. Mais là, ils ont été voir Philippe. Pourquoi? Ben parce que Philippe, il avait un nom grec. Et Philippos, hein, qui veut dire celui qui aime les chevaux. Hein. Philéo, Houpos, celui qui aime les chevaux. Ils ont entendu les disciples qui s'appellent comme ça, Philippe. Ah, ben celui-là, il a un nom grec. Tout de suite, vous savez comment c'est? Hein, si vous avez voyagé à l'étranger, vous êtes français, vous rencontrez un français dans la rue, si vous ne le connaissez pas, vous ne dites pas bonjour. Bon, sauf si, en randonnée. En randonnée, tout le monde se dit bonjour. Mais sur les trottoirs à Saint-Raphaël, on ne se dit pas bonjour. Dans tous les cas, mais vous allez vous retrouver sur un site touristique n'importe où dans le monde, où tous les autres sont des étrangers, le petit français que vous entendez parler là, ben, ah, bonjour, vous êtes français, ah, vous devenez d'où, tout ça. Tout d'un coup, on s'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un point commun. On sait que, et puis si on est un peu perdu, moi j'ai vu les touristes, vous savez, au mois d'août, il n'y a plus de Parisiens à Paris, donc les pauvres touristes, ils doivent se débrouiller tout seuls. Alors, le touriste hier, c'est celui qui explique aux touristes d'aujourd'hui comment se retrouver. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent comme ça, ces nouveaux touristes, ils écoutent comme ça, et puis ils entendent, ah, de l'anglais. Ah, ben, je vais aller, parce que moi, je comprends l'anglais. Ah, voilà, du chinois, ben, je vais aller voir vers eux. Et on va retrouver ceux qui nous ressemblent, parce qu'on sait, il y a quelque chose au fond de nous qui dit, si c'est quelqu'un de mon pays, si c'est quelqu'un de ma culture, eh bien, il va m'aider. C'est pour ça que c'est très bien dans une église d'avoir des gens de partout. Parce que le nouveau qui arrive, il a vite fait le tour comme ça, puis il repère vite. Hein. Bah, il ne peut pas faire autrement, c'est comme ça, on est humain, hein. On le sait. Il va repérer quelqu'un et dire, ah ben celui-là, peut-être, avec celui-là, peut-être, je peux, j'ai quelque chose en commun. Et c'est très important. Paul dira aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22, 1 Corinthiens 1, 22, il dira, les Juifs demandent toujours des miracles ou des signes, et le grec demande de la sagesse. Il dit, naturellement, les Grecs, les Juifs, quand tu commences à parler de choses religieuses, il dit, bon, ben, quel miracle est-ce que tu peux faire? Et Jésus, on est constamment en train de lui demander un miracle. Et à Paul, on lui demandait tout le temps de faire des miracles. Et Jésus dit, bon, ça suffit, le seul miracle que je fais pour vous, c'est celui de Jonas. Et il a fait référence à sa résurrection. Il dit, ça, c'est le grand miracle. Mais les Grecs, ben, ils étaient tout le temps, et puis c'est pour ça qu'ils ont invité Paul à parler à Athènes. Et puis il commençait à parler, ils écoutaient, puis après il a parlé de résurrection. Oh, non, ça ne nous intéresse pas. Mais c'est-à-dire, mais ces Grecs-là sont différents des autres. Parce que eux ne cherchent pas à entendre une nouvelle philosophie, une nouvelle combinaison, une nouvelle voie. Eux cherchent une personne. Et c'est ça, si nous voulons trouver une réponse dans notre vie, c'est de chercher la personne de Jésus. C'est pas la culture chrétienne, bon, elle a ses points forts, mais d'autres cultures en ont aussi. C'est pas de voir l'héritage, l'art chrétien. Bon, l'art chrétien, d'accord, mais d'autres, il y a de beaux arts, un bel art ailleurs aussi. Et c'est la personne. Et eux viennent et disent, nous voudrions voir Jésus. C'est pas, il dit, on veut entendre une nouvelle idée, hein, comme les Athéniens. Non, nous voudrions voir Jésus. Et vous savez, de nos jours, il y a des gens qui cherchent Jésus, mais pour sa puissance. Allez, si je suis malade, je vais prier à Jésus, je vais faire ceci, faire une scène, certains crient, certains jeûnent, peu importe ce qu'ils font, mais ils veulent le pouvoir de Jésus. Il y en a d'autres qui veulent son intervention dans une situation particulière où qu'ils n'arrivent pas à démêler. Qui les dépassent, alors là, ils veulent qu'ils interviennent, mais ils veulent ses capacités. Mais là, ces hommes viennent pour sa personne. Je me rappelle une fois, on avait un gendarme qui était à l'église, qui venait à l'église, puis on discutait un petit peu, il a dit, moi, vous savez ce qui m'irrite? C'est ces gens qui m'appellent uniquement pour que je leur fasse sauter une amende. Mais moi, il ne s'intéresse pas à moi. C'est seulement, il m'appelle et il dit, ah, j'ai eu un... tu ne peux pas me faire sauter. À l'époque, on pouvait les faire sauter. Vous savez, mais beaucoup de gens ont ce comportement vis-à-vis de Jésus. On vient pour lui faire, qu'il lui fasse sauter des conséquences, une bêtise à nous. Il dit, non. Nous voudrions voir Jésus. Nous venons à la personne de Jésus. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est que c'est la seule manière de vraiment obtenir quelque chose, c'est de venir à lui. Autant vous appréciez que quelqu'un vienne à vous parce que c'est vous, autant Jésus apprécie qu'on vienne à lui parce que c'est lui. Et vous savez, même, vous lisez dans l'évangile de Jean, puisqu'on est dans l'évangile de Jean, et Jésus, ce qu'il met en valeur, c'est pas ses capacités. Il n'a pas dit, écoutez, vous savez, moi, je suis capable de dire à cette montagne de se déplacer, je peux faire sauter un volcan, je peux assécher la mer, je peux. Il n'a pas parlé de cette manière-là. Il n'était pas là pour vanter ses capacités. Mais ce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis la porte, il dit, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit, je suis la résurrection et la vie, il dit, je suis, c'est comme ça que je veux être, pour ce que je suis, et pas ce que je peux faire. Et puis c'est pareil, vous savez, Moïse, dans Exode chapitre 3, dans le Dieu qui s'est apparu dans le buisson ardent. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de vos pères. Et Moïse dit, mais comment est-ce que je vais t'appeler? Comment est-ce que tu veux que je t'appelle quand je vais en parler aux enfants d'Israël en Égypte? Il dit, dis-leur que je m'appelle Je suis. Je m'appelle Je suis. Dans le sens que je suis tout ce dont vous avez besoin. Je suis. Et c'est ça Et donc, ces Grecs-là, c'est très important, ils sont venus. Donc, eux veulent connaître Jésus pour qui il est. Mais, en même temps, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont parler à Philippe. Philippe, quelqu'un, lui, dit, ah, il s'appelle Philippe. Tiens, il est peut-être né dans une ville grecque, il va nous comprendre, il est un peu dans la même culture, peut-être il parle notre langue, peut-être. Vous savez, il y a des points communs. Vous savez, ce que je veux dire, c'est que ne méprisez pas ce que vous êtes. Dans le sens que il se peut que vous soyez d'une certaine nationalité, vous êtes d'une certaine culture, que vous soyez d'un certain groupe professionnel, que vous soyez de certaines activités, que vous ayez eu un passé, même un mauvais passé. Mais vous savez, les gens vont chercher quelqu'un qui a un peu, qui comprend, qui a eu la même chose. Je me rappelle, une fois, il y avait une personne qui était venue à l'église et qui avait un gros problème d'alcool. Eh bien, vous savez, ceux qui ont ce problème, ils se reconnaissent très vite entre eux. Et il y a un frère dans l'église qui avait eu la victoire, qui était venu au Seigneur, était sorti de là. Il l'a vu, il a lu son visage, il a su tout de suite. Et ils se sont regardés, ils ont su qu'ils avaient quelque chose, il a pu lui parler. C'était pas moi, c'était lui. Parce qu'il y avait quelque chose de commun. Vous savez, et puis après, on va chercher quelqu'un de sa nationalité, on va chercher quelqu'un de... vous savez, un divorcé, ben, il va être plus à l'aise à parler avec quelqu'un qui a déjà vécu un divorce. Parce qu'il y a un point commun. Et on dit, voilà, je suis passé par là, mais alléluia, le Seigneur m'a apporté. Ben, ça apporte. Hein? Donc, ils se sont adressés à Philippe, parce que Philippe avait quelque chose de commun avec eux. Et dans une église, ben, vous savez, des fois, le pasteur n'est pas celui qu'on va voir le premier pour n'importe quoi. Vous savez, quand on a quelque chose à partager, on essaie de voir avec qui on peut partager. Et ce n'est pas forcément avec... là, ils n'ont pas été vers Pierre ou ils n'ont pas été vers Jean, hein, mais ils ont été vers Philippe. Et puis après Philippe, il est allé vers André. André, c'est encore un nom grec, Andreas. Et alors les deux, hein, André et Philippe, ils étaient juifs, mais comme ils vivaient dans des communautés, ils avaient des noms grecs. Hein, donc, mais c'était un point commun. Et les deux, ben, ils ont été voir Jésus. Et ils ont accompagné ces Grecs vers Jésus. Alors, voilà. Alors, ce que je veux dire, sachant que chacun de nous avons un rôle important. Et ce que nous sommes peut nous donner ce rôle important pour aider quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour guider quelqu'un. Et puis, qui puisse les accompagner à Jésus, c'est ce qu'a fait Philippe. Les Grecs avaient bien fait de choisir Philippe, qui avait été dire à André, et puis ils ont été parler à Jésus. Parce que ils ont bien fait de parler à Philippe, parce que Philippe n'a pas essayé de faire vous voulez voir Jésus ? Oh, ben écoute, moi, je peux vous aider. Hein. Vous voyez les gens comme ça, dans les milieux religieux. Hein, ils viennent pour adorer Jésus, et puis après, ce qu'on leur présente, c'est un grand prédicateur avec un programme, avec ceci, cela. Non, non. Philippe, il dit tiens. On va voir André. André, on l'a connu. La première fois qu'on a entendu parler d'André, c'était André, il écoutait Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste avait vu Jésus au loin. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et André, eh ben, lui, il l'avait suivi. Et quand il a découvert que Jésus était réellement le Messie, c'est lui qui est allé voir Pierre et lui a dit, écoute, on a trouvé le Messie. Hein, André, c'est celui qui fait les liens. C'est tout, c'est son petit rôle, mais un rôle important. Hein? Vous savez, en français, on a les traits d'union. Traits d'union, c'est pas gros. Hein? Ah oui, mais ça fait la différence parfois. Hein? C'est un rôle important, on ne les fait pas sauter comme ça, on dit, bon, ça c'est un petit tiret. Non, non, les traits d'union, ça fait tout. Et vous savez, même si on a un petit rôle de trait d'union, mais le trait d'union rapproche des grands mots et des grands concepts sont rapprochés par des traits d'union. Et donc, donc ils ont bien fait de s'adresser, Philippe, et la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais et si quelqu'un venait vous demander une question, et dire, hey, nous, on s'intéresse à Jésus, la Bible, comment on fait? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Eh bien, écoutez, moi, je le connais, je vais vous emmener directement à Jésus, je vais vous parler de Jésus. Et le faire connaître. Vous savez, je n'ai pas lu tout à l'heure ce que Jésus a répondu, hein, quand ils sont venus voir Jésus. Regardez, je vais vous lire rapidement ce qu'il répond. Verset 24, Jean chapitre 12, verset 24, verset 23. Jésus leur répondit, donc à André et Philippe, et plus ces Grecs. Dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection. Dit, première vérité fondamentale, la première réalité, c'est qu'il faut comprendre qu'il est indispensable que Christ meure, comme le grain de blé doit mourir pour porter la vie, et par sa résurrection, là, il porte du fruit. Tant que le grain de blé ne meurt pas, il n'y a pas de récolte. Mais quand le grain de blé meurt, il réapparaît, et là, il peut porter une récolte. Il dit première réalité. Deuxièmement, verset 25, il parle de la vie du disciple. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est, dans le sens qui donne une moindre importance à sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si je vis que pour moi, j'aime bien parler des petits-enfants, parce que quand on parle des grands, ils n'aiment pas, mais quand on parle des petits-enfants, on arrive à bien voir la nature humaine. Vous avez des petits-enfants, là, vous les mettez dans une pièce avec rempli de jouets, ils sont dispersés partout, et ils s'ennuient terriblement. Il ne sait pas quoi faire, il passe là, il ne sait pas quoi faire. Vous laissez entrer un autre petit-enfant de son âge, là-dedans, tout d'un coup, il ramasse tout, il prend tout pour lui. Il ne joue, il peut pas jouer avec, parce qu'il a tout pris, mais il ne veut surtout pas que l'autre. Vous savez, la nature humaine, il dit, celui qui vit que pour lui, il ramasse que pour lui, ben, il est malheureux, parce qu'il ne jouit même pas de ce qu'il ramasse. Il dit, mais quand tu vas partager. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu aussi, eh bien, il nous dit, écoute, t'affectionne pas aux choses du monde, comme si c'était l'objectif et la fin de ta vie, l'objectif final, mais plus à ce que Dieu a pour toi et la vie que Dieu t'offre. Et tu vis pour cela. Et puis toutes ces choses, bon, ils sont là. Il y a plein de choses dans le monde qui sont très bien. Mais à leur place. Et qu'il n'est pas la première place, et soit le premier objectif, la première passion. Mais ils sont là. Mais d'abord, Jésus-Christ. Il a dit ça, c'est la deuxième réalité, si on veut suivre Dieu. Et verset 26... Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Car là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Il dit, la deuxième chose, c'est que ce n'est pas seulement l'affection, mais ensuite de suivre le Seigneur, l'enseignement du Seigneur, de le suivre. Il a dit, si vous le suivez, vous serez là où il est. Il sera avec vous. Si vous le suivez, vous serez avec vous. Si vous allez écarter, hein, c'est comme les brebis qui suivent le berger. Si elles font à leur tête, et ben, tout d'un coup, ah ben oui, il est où le berger ? Et il m'a abandonné. Non, c'est toi qui t'es écarté. Mais si tu suis le berger, et le berger est toujours là. Hein? Il dit, deuxièmement, donc c'est de suivre. Mes brebis me connaissent et elles me suivent, dit Jésus. Hein? Et puis quatrièmement, eh bien, à la fin de ce verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il dit, tu veux être bien reçu par le Père, bien vu par le Père, alors vis pour Jésus-Christ. Voilà la réponse de Jésus à des Grecs qui cherchent à l'adorer. Il n'a pas dit, écoutez, maintenant, bon, il faudra passer du temps dans la prière, dans le jeûne, et vous faites ceci, cela, puis vous passez, et puis mémoriser 25 chapitres la première semaine. Et non, il n'a pas dit ça. Il a dit, écoute, moi, je vous dis, comment c'est la vie. La vie du disciple, voilà ce que c'est. Et ça correspond à la personne de Jésus-Christ. Ce que lui a fait devant le Père, c'est ce que nous faisons par rapport à lui. Vous savez, de nos jours, il n'y a pas Jésus quelque part, à une adresse quelque part où on peut emmener les gens et puis dire, écoute, va faire la connaissance de Jésus. S'ils veulent voir Jésus aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont le voir? Où est-ce qu'ils peuvent le voir? C'est impossible de les emmener vers Jésus physiquement. Le seul endroit où ils peuvent le voir, c'est en nous. Vous savez, quand Pierre et Jean avaient été arrêtés dans Actes chapitre 4, il dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il dit, ça est quand même bizarre, hein, parce que normalement, des gens qui n'ont pas d'éducation devant des gens très éduqués, c'est un peu timide. Il dit, ces gens, ils ont pas. Il dit, tout ça leur vient. Et il ajoute ici, en Actes chapitre 4, verset 13, il dit, et ils les reconnurent d'avoir été avec Jésus. Ils ont vu Jésus en eux. Il dit, eux, sans Jésus, c'est pas comme ça. Mais si c'est comme ça, c'est parce que Jésus est en eux. Ils ont vu Jésus. Et vous savez, le monde qui nous entoure aujourd'hui ne veut pas, ne peut pas voir Jésus. Heureusement qu'il n'est pas là physiquement, parce qu'il n'y a que... il faudrait être quelque part géographiquement pour le voir. Tandis que maintenant, il peut paraître dans les vies de milliers d'enfants de Dieu. Il peut voir le changement dans notre vie, la manière que notre partenaire dans la maison puisse voir Jésus en nous, que nos collègues au travail puissent voir Jésus en nous, que les voisinages puissent voir Jésus en nous, et voir ce changement. Il voit cette autre vie, il dit, mais il y a quelque chose là, il y a autre chose. Est-ce que nous avons une telle vie? Vous savez... les mages étaient venus de l'Orient à la naissance de Jésus pour l'adorer. Ces Grecs viennent à Jésus juste avant la crucifixion pour l'adorer. Et ensuite, nous voyons dans l'Église primitive l'Éthiopien qui était venu à Jérusalem, mais la réponse n'était pas à Jérusalem, la réponse était dans une personne. Il repart sans la réponse. Vous savez, Dieu a vu. Il a envoyé Philippe pour le rattraper dans le désert. Et il courait à côté, parce que l'autre était dans le char. Hein, c'était un ministre, il était dans le char. Et Philippe, il est à pied. Donc, il court à côté, d'où l'importance de faire du sport. Et il l'écoutait, et puis lui parlait. Et comme dès que l'autre, il a vu que Philippe pouvait l'aider, ben, il a dit, écoute, tu mens. Et alors là, après, c'était autre chose. Mais ce qui importe, c'est que Dieu avait pris Philippe de Samarie. Philippe, déjà le premier qui est allé vers des non-juifs, hein, vers les Samaritains. Et puis ensuite, maintenant, c'est Dieu qui prend Philippe, pas Pierre, pour aller rattraper ce Éthiopien. Philippe avait ce cœur. Il était prêt à parler avec les étrangers. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans son cœur. Il ne reflétait pas le contexte de l'époque. Il reflétait l'amour de Jésus-Christ pour l'étranger. Et ceux qui ne sont pas exposés, ceux qui n'ont pas d'arrière-plan. Et des fois, et parfois, il y a des gens qui vont se présenter, qui savent absolument rien de tout cela. Et est-ce que nous sommes là disposés à les aider? Donc n'oublions pas qu'à tout moment, nous devons être disponibles et disposé à répondre aux besoins de celui qui cherche Dieu, celui qui voudrait l'adorer, mais réellement l'adorer. Alors là, nous devons être toujours prêts. Donc, avec ces pensées-là, ben, je vous invite à prendre quelques minutes de silence et que s'il y a une parole, une phrase quelque part qui vous a interpellé, que l'Esprit de Dieu a souligné dans votre esprit, eh bien, méditez là-dessus et voyez ce que le Seigneur a pour vous. Voilà, puis ensuite je prierai.